Ouais.
Psychopute. Salut. Vous écoutez La Courte Échelle comme tous les dimanches soirs de 19h à 20h. Une émission contre l'enfermement et contre toutes les prisons. On est en direct de Radio Galère 88.4. Il y a un numéro de fixe auquel vous pouvez appeler à l'antenne qui est le 04 91 08 28 10. Il y a aussi une adresse courrier pour nous envoyer du courrier. On lit les courriers à l'antenne si c'est précisé dans les courriers. Les courriers, c'est plutôt l'idée. Et si jamais on y répond, dans tous les cas, c'est avec plaisir. C'est la friche de la Belle de Mai, Radio Galère. 12 rue François Simon, 13 003, Marseille. Et sinon, il y a une adresse mail pour celles qui peuvent écrire des mails sur ordi ou sur téléphone, qui est la-courte-échelle@riseup.net. Ce soir, à la radio, on est quelques-unes. Il y a Roms qui est là.
Présent.
Il y a Titou qui est là, voilà, en mode auditeur. Il y a Liane qui est là.
Et coucou, un peu fatigué ce soir, mais ça va le faire, on espère.
Ouais, et on est là en tout cas. Et il y a moi, Madou, salut.
Et coucou Madou.
Coucou. On avait envie de commencer l'émission avec un méga bon giga ultra anniversaire à toi, Kémy.
Bon anniversaire, Kémy.
Peut-être qu'on va pas chanter la chanson à l'antenne.
On n'est pas toute l'équipe ce soir pour te le souhaiter, mais... toute l'équipe qui met du cœur.
Grave.
Grand bon anniversaire.
On pense fort à toi. Il paraît que la dernière fois que la gamelle a été ingurgitée, c'était pas fort. Du coup, ça, ça n'améliore toujours pas les gamelles à
Moulin.
À Moulin, donc du coup, bah.
On espère qu'à part ça, ça va tant bien que mal à la centrale de Moulin-Izer. Grosse force à toi pour tout, pour la peine. Et plein de love pour cet anniversaire.
Ouais. Gros love. On a dédicacé des petites musiques au fur et à mesure d'émission. Mais là, du coup, on va commencer par un petit briefing et des updates de la loi Rodwell. Si tu veux, Liane, tu prends la main.
Alors, il faut savoir que maintenant, on est une émission de blablatage sur les lois. Donc, on est parti sur quelques minutes d'explications légales. Avec une voix qu'on va essayer de ne pas faire trop monocorde.
Non, mais ça va être hyper intéressant.
Ça va être hyper intéressant.
En plus, après, il y aura des musiques et après, il y aura d'autres choses.
Il faut savoir que, si vous n'avez pas suivi les émissions dernières, ça fait plusieurs fois qu'on parle des lois récentes qui sont passées sur les lois qui permettent d'expulser, d'enfermer les étrangers en France et à défaut de les accueillir dignement comme on devrait le faire. Étrangers, je veux dire les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Là, je l'ai expliqué les fois précédentes, donc je vais essayer d'aller pas trop lentement sur le contexte des différentes lois. On a parlé du pacte les dernières fois, qui est un truc général sur le cadre européen, et du règlement retour, qui est une précision de comment ça marche le pacte dans un cadre, sur comment ça marche les expulsions. Donc ça, c'est le règlement retour et le pacte migratoire. Ça, c'est l'échelle européenne, avec la France qui est en train de faire passer des décrets pour savoir comment on va l'appliquer concrètement ici. Et plus localement, on a une autre loi, qui est la loi Rodwell, dont on a parlé pas mal de fois déjà.
Qui n'a rien à voir avec l'extraterrestre américain.
Qui n'a rien à voir avec l'extraterrestre américain.
On parle bien d'autre chose.
De Rodwell, qui est en fait juste un ministre, enfin je ne sais même pas ce qu'il est, enfin il est député, peut-être, non il n'est pas ministre, il est député Renaissance je crois, enfin député du centre, je vous dirai précisément après, et qui a proposé cette loi transpartisane qui se veut être une réponse à des actes soit terroristes, soit de violence, et qui en gros, même il y a certains médias qui l'appellent la loi philippine, en gros, il rebondit sur la médiatisation de certains faits divers isolés autour de personnes qui avaient des OQTF et qui ont commis des crimes, il y a des personnes qui ont commis des OQTF, qui ont commis des crimes, comme d'autres personnes qui n'avaient pas d'OQTF qui en ont commis, mais les personnes qui, quand c'est une personne sous OQTF, c'est surmédiatisé et c'est tout le temps précisé. Et du coup, vraiment, c'est juste une réponse dans la loi à cette panique médiatique-là. Et donc, bon, voilà, on va entrer...
Ça, c'est le cadre.
Ça, c'est le cadre général. Ouais, on va rentrer dans le détail après. Et c'est en gros un espèce de fourre-tout qui parle de terrorisme, qui parle de rétention des étrangers. Essentiellement, enfin pour tout, ça parle de ces deux trucs là et ça les amalgame beaucoup trop et on va expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc voilà, c'est un peu déconnecté du reste, enfin le seul point commun avec les autres lois dont on parlait sur donc le pacte et les règlements retour, c'est que c'est une loi qui va augmenter la durée de rétention de personnes qui sont en centre de rétention. Même énormément, on va passer de 3 mois à 7 mois pour certaines personnes. On va rentrer dans les détails juste ensuite. Du coup, par exemple, ce qu'on a expliqué la dernière fois pour le pacte, c'est que le droit européen va beaucoup élargir le droit d'enfermement pour les personnes lorsqu'elles arrivent soit dans les hotspots, soit dans les zones d'attente, dans les zones d'arrivée. Il va y avoir des centres avant que les personnes soient dans le territoire légalement, elles y sont pas vraiment, il y aura un long enfermement. Mais là, c'est pas pareil, c'est quand on arrête des personnes sur le territoire
français,
on les met pas en zone d'attente, en tout cas en France on les met pas en zone d'attente, on les met en CRA, en centre de rétention administrative pour essayer de les avoir sous la main au moment où on aura un avion pour les expulser. Ça c'est l'idée. Après il y a plein de personnes que aussi, enfin, on sait qu'on va pas pouvoir expulser mais qu'on enferme quand même. Voilà, donc ça c'est les personnes qui sont déjà en France et qui sont arrêtées, si elles n'ont pas les bons papiers, elles peuvent être placées en CRA. Et jusqu'à maintenant c'était 3 mois, et l'élément de cette loi dont on parle beaucoup, c'est que ça va être élargi à beaucoup plus longtemps pour certaines personnes. Mais on va pas parler, mais cette loi elle parle pas que de ça, et on va essayer de regarder un peu le reste aussi.
Du coup, pour dire, donc le CRA c'est le centre de rétention administratif, et quand on chope une personne qui a pas forcément le bon papier, pour la retenir, on l'enferme dans ces centres.
C'est ça.
Il y en a un à Marseille.
Au Cannet.
Tout à fait.
À côté, la plombière, en bas de la rue, presque.
Donc une prison qui ne dit pas son nom.
Exactement. Oui, officiellement, ça va être des prisons, mais les conditions de vie sont les mêmes, voire pires que les conditions carcérales. Et ça, bon, c'est un truc qu'on répète assez souvent, mais il y a plusieurs éléments qui font que c'est assez hardcore. Par exemple, à Marseille, il y a des vitres en parloir. Hardcore, mais aussi les personnes ne peuvent pas faire leur propre bouffe, elles n'ont pas de prise sur ça, elles n'ont aucune activité, et puis aussi, il y a tous ces. Souvent elles sortent d'une peine d'avant, donc ça s'accumule à la peine de prison qu'elles ont faite avant, il y en a une bonne part pour lesquelles c'est le cas, et du coup ça fait une accumulation aussi, donc vraiment ça a l'air d'être une expérience d'enfermement particulièrement hardcore à vivre. Et donc, la loi Rodwell. Donc, ça fait, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais en tout cas, la Cour d'appel, ça fait un moment qu'on parle de ces fameux 210 jours. Donc, 210 jours, c'est les 7 mois, c'est l'équivalence. Parce que, ça fait un moment qu'elle a été proposée, donc.
Donc, c'est 210 jours d'enfermement.
210 jours d'enfermement.
Dans le centre de rétention.
Dans le centre de rétention.
Ah ouais.
Ça fait un moment, enfin, elle avait été proposée il y a longtemps. Donc, si on reprend l'historique de cette loi, elle a été proposée une première fois en décembre 2025. Elle a été validée par le Sénat, qui l'a votée, et puis censurée par le Conseil constitutionnel, qui a trouvé qu'elle était trop hardcore. Elle était pas, enfin, je sais pas si c'est parce que, bon, je sais pas sur quoi s'est basé peut-être les textes étaient juste pas bien écrits. Je sais pas exactement sur quoi il s'est basé le contexte constitutionnel pour la censurer cette fois-ci. Du coup, l'objectif, c'était en tout cas de la réécrire pour la dater un tout petit peu, pour que ça marche bien avec la Constitution. Mais globalement, elle n'a pas beaucoup changé. Il y a quelques précisions qui ont été rajoutées et des passages qui ont été réécrits. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient la réécrire, mais ils ont fait deux commissions, chacun de leur côté. Alors, une commission du côté Sénat et une commission du côté Assemblée. Donc, l'Assemblée, c'est les députés, le Sénat, enfin bon, bref. À chaque fois qu'il y a une loi, il faut que ce soit accepté par l'un puis accepté par l'autre, à part quand c'est des ordonnances ou des décrets qui consultent pas les parlementaires, mais quand c'est des lois qui sont des grosses lois, on consulte les parlementaires, et souvent, à part quand on fait un 49-3 par exemple. Le Sénat et l'Assemblée ont tous les deux fait des commissions pour réécrire cette loi, et ils ont pas fait exactement la même version. Tous les textes étaient différents. Par exemple, pour savoir à qui ça allait s'appliquer cette règle des 7 mois, l'Assemblée, elle disait plutôt que c'est, enfin, la commission que l'Assemblée a nommée, elle proposait plutôt que ce soit aux personnes qui ont commis des actes, délits, des crimes d'atteinte aux personnes et pour les plus de 3 ans. Le Sénat a dit pour les plus de 5 ans. Quand je dis plus de 5 ans, c'est pas l'âge, c'est la quantité de peine.
Peine qui équivaut à plus de 5 ans d'emprisonnement.
Oui, c'est ça. L'Assemblée, elle disait pour les peines, les personnes qui ont des peines de plus de 3 ans. Le Sénat pour les peines qui ont les peines de plus de 5 ans. Ils ont intégré des petits détails en plus. Par exemple, le Sénat a intégré les 540 jours maximum en tout si on fait plusieurs fois les 7 mois.
Donc 5 fois. 5 fois ça.
5 fois. Alors. Oui, ça reste, oui, effectivement, comme tu as raison, le maximum, il y a aussi un plafond, on peut être placé 5 fois en rétention pour une seule mesure administrative. Donc on peut faire 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, 5 fois. Sauf que 5 fois 7, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a aussi un autre plafond, c'est 540 jours. Mais, donc il y a les deux, il y a à la fois un nombre de fois et à la fois un nombre de jours. Voilà, donc les deux, c'était assez récent.
Donc, juste pour rien, ouais. C'est quand même un truc de ouf, quand même, que tu peux jamais. Je sais pas, on va dire, dans la logique pénale, il y a quand même de payer sa dette à la société, sauf que quand t'es étranger, du coup, même si t'as fait un délit, du coup, si je comprends bien, qui est de 3 ou 5 ans, en fait, au lieu d'être à un moment libérable, tu vas directement aller au centre de rétention, en plus, jusqu'à 7 mois.
Ouais, ou tu peux faire, ouais, même 7 mois ferme en plus, quoi, globalement.
Du coup, c'est vraiment un truc d'illusion, en fait, qui est souvent rabâché, de dire, une fois que t'as fait ta peine, en fait, c'est bon, t'as racheté ta dette à la société, etc. Ce qui est jamais le cas, en fait, pour plein de raisons différentes. Et là, on voit encore une, par rapport aux personnes qui n'ont pas les bons papiers, en fait, t'es encore puni, quoi.
Oui, t'es puni de peine, et en plus, on essaie de t'expulser, et en plus, on t'enferme. Tout à fait. Et du coup, les deux commissions ont rendu des résultats un peu différents. Du coup, après, ils ont fait une commission mixte paritaire, donc paritaire, ça veut dire à moitié Sénat, à moitié Assemblée, qui a fait un nouveau texte et qui devait être voté par les deux. Et du coup, les deux l'ont voté, à savoir le Sénat l'a voté le 15 juin, donc lundi dernier, il me semble.
Ouais.
Et l'Assemblée l'a voté... aussi, et je crois que c'est le 16 juin, donc le lendemain. Et majoritairement, les députés ont tous été d'accord avec le texte. Et du coup, il est adopté définitivement en théorie de cette semaine. À part si le Conseil constitutionnel le recensure. Donc, à voir, j'imagine qu'il a été saisi. Et qu'ils vont regarder si la loi est compatible avec la Constitution. Mais bon, c'est un peu. J'imagine que s'il y a. Autant de personnes qui se sont penchées sur comment le réécrire, il y a des chances qu'ils le recensurent pas et que du coup, ce soit sur ça qu'on reste. Donc, que du coup, ce qu'on va expliquer là, il y a une petite chance que ce soit censuré une dernière fois, mais c'est vraiment pas sûr. Donc, autant c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer maintenant. Et vu la majorité, c'était 233 contre 102 voix au Sénat et 345 contre 117. À l'Assemblée, vu la majorité écrasante de personnes qui votent les politiques fascistes dans ce pays, de parlementaires qui laissent passer ces lois-là, même si le Conseil constitutionnel censuré, ça resterait hyper inquiétant de se rendre compte des lois que on est prêt à faire passer et qui vont peut-être passer bientôt si on continue comme ça. Donc dans le détail. Peut-être commencer par ce dont on vient de parler le plus pour que ce soit clair.
Ok.
C'est l'allongement de la rétention. Si je lis je vais lire des petits bouts de loi.
Ouais. Moi, je peux lire.
Vas-y, si tu veux. On arrive.
Ok. Donc le premier extrait, c'est. À titre exceptionnel, peut être prolongé au-delà de 90 jours dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants, puni de 5 ans ou plus d'emprisonnement.
Donc, là, on a je vous épargne la liste en détail des délits qui pouvaient être des personnes, enfin une liste assez longue de délits assez, enfin il y a beaucoup de choses dedans, donc ça va faire beaucoup de personnes qui ont commis des infractions et qui ont été condamnées pour ça, qui donc vont être concernées.
De toute façon, dans les logiques pénales actuelles, ils refont des lois où toutes les minimums de peine sont toujours augmentés, donc les 5 ans, on les atteint assez facilement.
Sachant que, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que avant, la situation avant, c'est que c'était 3 mois max de CRA, ouais. Sauf pour les personnes condamnées pour du terrorisme, qui pouvaient aller jusqu'à 6 mois. Et donc maintenant, les personnes condamnées pour terrorisme, je pense que ce soit 5 ans ou moins, elles vont être condamnées jusqu'à 7 mois, enfin fermées jusqu'à 7 mois en CRA toutes, plus les personnes dont on vient d'expliquer, donc Madou, tu viens de lire le texte, les personnes qui ont une peine de plus de 5 ans pour cette catégorie de délit qui est quand même assez, qui est quand même très large, où comment il y a toutes les atteintes aux personnes, plus des délits de destruction, dégradation, détérioration, enfin genre aggravés, mais bon, plein de délits assez graves, enfin, en gros globalement des délits qui méritent, enfin waouh, qui méritent, aïe non, des délits pour lesquels la justice donne 5 ans en général,
qui peuvent être aussi lourds aussi parce qu'il y avait d'autres trucs plus légers, enfin c'est pas forcément des délits qui sont c'est pas exponentiel, la peine n'a pas de rapport avec le délit réalisé, c'est plutôt que si t'as déjà eu, en tout cas si t'as déjà eu une peine, c'est assez accablant et que du coup t'as une plus grosse peine, t'as une peine plus lourde.
Oui ça veut dire, il peut aussi y avoir des trucs de récidive. C'est ça que tu veux dire?
Oui, puis la police, la justice, elle est raciste, du coup de toute façon si t'es un peu bronzé en vrai ils te mettent une peine plus lourde quoi, enfin
il est vrai,
c'est la justice de classe aussi, enfin bref, plein de raisons.
Pas qu'on t'interrompe.
Si, non, c'est très bien. Non, mais tout à fait. Bah, oui, j'ai l'impression que on arrive assez facilement avec la justice qu'on a en France à des peines assez longues, notamment de 5 ans, comme vous le dites. Et en plus, faut se dire que il y a un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils ont rajouté dans la réécriture de la loi qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est de dire une liste de délits très très longue et de crimes pour lesquels ça peut s'appliquer, mais qui recouvre quand même énormément de situations possibles.
D'accord.
Et pas du tout que du terrorisme, comme c'était le cas avant. Et après, il y a quelques précisions sur comment ça s'applique. Est-ce que tu veux relire un petit texte de loi ?
Ma foi. L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter du terme d'un présent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de la surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Merci. Ça fait des longues phrases. Hein.
Ils connaissent pas les points.
C'est chiant, j'ai pas tout compris moi.
Ils sont un peu chiants la justice, mais enfin les gens qui écrivent des lois. Mais donc en gros, quand tu fais tes 3 mois ou tes 7 mois de CRA, donc 3 mois pour la plupart des gens et 7 mois pour les personnes dont on vient de citer le cas, tu sors. Si le CRA a estimé que tu étais un profil un peu dangereux ou que tu n'as pas respecté ton assignation à résidence, au bout de 48 heures, ils peuvent te remettre dedans. Ce qui change, c'est que avant c'était au bout de 7 jours, entre deux peines de CRA, il fallait qu'il y ait au moins de peine de CRA, le lapsus, entre deux placements en CRA, il fallait qu'il y ait au moins 7 jours pour te remettre, sauf qu'un peu particulier où c'était 48 heures, donc 2 jours, et là ils l'ont élargi, tout le temps on peut mettre au bout de 48 heures une personne, si on considère qu'elle est dangereuse, ou si elle n'a pas respecté son assignation à résidence. L'assignation à résidence, c'est parce que, on parle pas mal du CRA, mais c'est vrai que il y a aussi cette modalité-là de contraignante pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers et qui ont une mesure d'éloignement, qui est que en général ils te mettent une assignation à résidence où tu dois pointer plusieurs fois par jour au commissariat et tu dois être vivre dans l'adresse que tu déclares. Comme ça, s'ils veulent t'expulser, ils te mettent pas en CRA, mais par contre ils savent où t'habites et ils peuvent venir te chercher et tu seras toujours à leur disposition. Et si jamais tu te présentes pas pour une raison X ou Y à ton pointage, tu peux être considéré comme en fuite, soit parce que t'as vraiment fui et t'as eu raison, mais aussi si jamais juste par erreur t'étais en retard ou t'as pas pu y aller ce jour-là, tu pourrais être condamné, considéré comme en fuite et ça renouvellerait ton placement en rétention. Donc ça fait tes 3 mois, mais c'est pas 3 mois max, puisque tu peux les refaire une deuxième fois. Donc ça c'est et j'ai l'impression que c'est les 2 paragraphes qu'on vient de lire. Et si on reprend la phrase...
Du coup, juste un truc, c'est un renouvellement des 3 mois ou c'est dans le cadre de renouveler comme si c'était les 7 mois? Non, c'est un renouvellement des 3 mois, quoi.
C'est un... Bon, en fait, selon ton cas, si t'es une personne qui peut faire 7 mois, tu peux être renouvelé de 7 mois. Si t'es une personne qui peut faire que 3 mois, t'es renouvelé de 3 mois.
Ok. Ah ouais, donc en fait, c'est juste la question du renouvellement, en fait.
Ouais, ça, c'est vraiment le renouvellement.
Ah ouais.
Parce que, là, j'ai l'impression qu'on parle... Enfin, quand on parle des durées maximales d'affilée du CRA, mais ça recouvre pas... l'ensemble de la durée d'enfermement que tu peux prendre dans la gueule à cause de cette mesure d'éloignement, puisque elles sont beaucoup plus grosses que ça. Tu peux y aller plusieurs fois pendant 3 mois, voire pour les personnes qui ont fait 5 ans de tôle, plusieurs fois pendant 7 mois.
Ouais, ok.
Donc ça fait des durées énormes.
Carrément.
Et en plus de ça, entre les deux, il peut y avoir de l'assignation à résidence. Et oui, et donc ça, ce qui change par rapport à avant dans la nouvelle loi, c'est que le délai entre les deux, il passe de 7 jours à 48 heures, comme on vient de le dire. Et aussi, ils insistent bien sur le fait que si jamais tu pointes pas, enfin, ils redisent bien explicitement que si jamais tu te présentes pas à ton assignation à résidence que tu viens pas pointer, tu peux être considéré comme en fuite et c'est une bonne raison de te remettre dedans. Et quand je dis. On va y revenir après. Et ensuite, j'ai l'impression que la phrase, mais voilà, ça c'est l'interprétation de moi qui suis pas non plus spécialiste du tout, mais toutefois, si ce précédent placement, ce que tu viens de dire, a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent dire, si jamais la personne elle s'est évadée du CRA. C'est ça, soustrait à la mesure de surveillance dont elle faisait l'objet. Ils peuvent recommencer la peine de CRA au milieu. Si jamais ils te rattrapent, ils peuvent te remettre en nouveau placement. Et donc j'imagine que tu peux repartir pour 3 mois quasiment d'affilée parce que t'as fait une tentative d'évasion. On reste sur de l'interprétation sur cette partie précise là. C'est la seule manière donc que j'ai de comprendre cette phrase. Peut-être qu'il faut la comprendre différemment.
Ouais. Bah déjà que c'est la même phrase, c'est par rapport aussi, comme tu disais, au fait de devoir pointer. Enfin, c'est la même chose, non?
Oui, mais...
Il peut y aussi avoir le fait d'essayer de s'évader.
Oui, dans tous les cas. Mais j'ai l'impression que là, ce qu'ils disent, c'est que ils peuvent... Enfin, dans tous les cas, ils peuvent te renouveler à partir des 48 heures, quoi qu'il arrive, ou alors moins de 48 heures si t'es dangereux, ou alors que t'as pas respecté ton assignation de résidence dans les 48 heures. Et donc, j'ai l'impression que cette phrase-là, ça veut dire encore moins si ils peuvent même renouveler un placement alors que t'es encore dedans. Si jamais t'as fait une tentative d'évasion, à vérifier.
Ça, c'est... Tu peux répéter la phrase.
Après, ça a l'air d'être dans la continuité. Enfin, c'est...
Toutefois, si ce précédent. Avec le contexte ou sans le contexte?
Avec un peu de contexte, mais vas-y.
Nous sommes sur un live analyse de texte légal. Cette décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai des 48 heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce présent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Ok. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi tu l'avais un peu analysé comme ça. D'accord.
Bon, ouais.
On comprend rien comme d'habitude ce qu'ils ont voulu dire, et puis ils vont t'interpréter comme ils voudront, mais...
Si un jour j'ai... Si un jour... ça c'est clair, je le ferai savoir à l'antenne.
À suivre.
L'auditoire a le droit de savoir.
Ah ouais, peut-être aussi le droit d'écouter une petite musique à un moment, donc
n'hésitez
pas à lancer en technique là.
Vas-y, peut-être on finit les plafonds.
Allez, le plafond.
On finit les plafonds.
Plafond.
Et après ça, on fait ça.
Grave.
puisque dans la, pour finir avec ce, ce
petit, avec ce, nous, on parle ce... des plafonds.
Du coup, le plafond de la radio. Pour finir avec cette partie sur les temps de rétention.
Ouais.
Et à ce que je disais juste avant, qu'on peut être renouvelé plusieurs fois, mais qu'il y a des plafonds à ça. Donc, est-ce que tu veux...
Est-ce que la... La voix veut bien lire, s'il vous plaît.
La loi veut parler.
Oh non, mais c'est horrible le rôle que j'ai. Là. Alors, la durée cumulée en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder 360 jours. Donc 360 jours. Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article, avec beaucoup de chiffres, cette... je le lis, L742-6, cette durée est portée à 540 jours. Putain. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de 5 placements en rétention pour l'exécution de la même mesure d'éloignement.
Voilà, donc, dernier petit truc technique sur la partie de cette loi-là, pour qu'on comprenne bien. Donc là, ce qu'ils disent, c'est pour les personnes qui font 3 mois, enfin, les personnes, quand je dis les personnes qui font 3 mois, je veux dire les personnes qui, ont, les personnes qui se retrouvent en CRA sans avoir fait 5 ans de prison. La durée max pour une mesure d'éloignement, c'est 360 jours, donc autrement dit 12 mois en tout. Donc les personnes peuvent faire 3 mois.
Ouais.
Pour une mesure d'éloignement. Mais si leur OQTF elle expire et qu'ils en ont une autre, ah, ça recommence.
Ouais.
Et si vous avez une OQTF et d'un coup ils ont une IRTF, paf, ça recommence. Bon. Mais pour une, il y a ce plafond. Quand même. Et pour les personnes de, les, de la catégorie 742-6 dont, dont on vient de parler, c'est,
okay,
les, c'est l'article qui dit les personnes qui ont fait plus de 5 ans de prison, ça, là, ça va à 540 jours. Donc 540 jours, c'est, il me semble, 18 mois.
Ok, un an et demi.
Donc voilà, c'est vraiment énorme. Et le truc qu'ils disent à la fin, c'est qu'on peut faire 5 placements. Donc si tu fais 5 placements de 1 mois, t'atteins ton maximum, même si ça fait pas, ça fait, ça fera que 5 mois et pas 12 mois.
Mais du coup, sous...
Mais tu peux faire 3 fois, plus 3 fois, plus 3 fois, plus 2, plus 1. Vous avez compris. Les plafonds. Bah, on s'en fout, mais...
Mais en assignation, enfin en pointage, t'es obligé, c'est comptabilisé ou pas?
Non, le pointage ne rentre pas dans, dans la catégorisation placement en rétention, de ce que j'ai compris. Après, à vérifier, mais je pense pas.
Ok.
Je pense que ça, c'est vraiment le crâne.
Si vous voulez, je peux résumer avant la musique, la loi. Je crois que j'ai compris.
Oui.
Ah ouais?
Ouais, je pense que les gens qui écrivent les lois, c'est des grosses merdes.
Ouais.
Et qu'en fait, ils veulent juste enfermer plus et faire encore plus de répression. Et que les CRA, c'est de la merde. Enfin, les centres de rétention administrative, c'est de la merde.
Voilà.
Et du coup, bah, ça va mettre aussi pas mal la pression aux policiers. On pense beaucoup aux policiers qui doivent énormément souffrir. S'ils veulent, ils peuvent juste libérer les gens et eux-mêmes cramer le centre de rétention avec eux à l'intérieur. Ça ferait une belle action. Et voilà, ça serait bien dans un monde un peu plus joli, un peu plus de, qui a un peu plus de flamme.
Ah, je me suis fatigué à essayer de tout expliquer et finalement tu résumes tout en quelques phrases. Enfin, on aurait dû juste faire ça. Bon, c'est pas grave.
Ça a remis une petite bulle d'espoir, tu vois. Genre, moi, je me suis projeté là,
oui,
dans ce qu'il a dit.
On a eu la vision.
Ok, petite pause musicale.
Allez, on souffle un peu.
On va écouter quoi?
On bouge le body.
Hein?
On,
ouais,
bouge le body.
Exactement.
Allez, on bouge le body.
On danse pour Kémy.
Il y a Kémy. Allez, mets-le.
Même si c'est pas du direct pour lui, mais en tout cas, on va écouter Guadalajara de Jul, qui
bien
est de ton côté. Et on se retrouve juste après. À toutes.
À toutes. La musique se lance, doucement, mais sûrement.
Thierry.
Vous êtes sur Radio Galère.
Oh, bon anniversaire, Kémy.
Trop bien.
Ouais, ouais, ouais.
Moi je fais pas du yoga, je fume la frappe à Yoda. Un 3 mec à Meda. Tu veux la photo, tu peux pas. T'inquiète, les frères, ils vont se refaire. Sans braquer, sans sortir le fer. C'est toujours mieux quand je peux le faire. Ça pue la rue fort. Je pense plus à ma vie quand sur bateau je navigue. Et heureusement que je suis gentil quand mon cœur est pas vide. Je roule un gros big et j'oublie tout quand je fais pas du yoga. Je fume la frappe à Yoda. Un 3 mec à Meda. Tu veux la photo, tu peux pas. Pas de vie comme un hater, je bois tout comme un guetteur. Au studio, on est guetta. Oh shit, ça pue la mort dans le secteur. J'écoute plus, c'est qu'un menteur. Je dis que c'est une folle, mais il fait le bandeur. Elle a touté comme un scooter. Ce slam pas des fouteux et des rappeurs. Je dis bonjour du pire au motard. Un lion.
pas dans la ha 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 ha. Tu me descends maman, t'as pas dit pas de buzz ha 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 ha. La famille c'est la famille, enfoncé dans la gare. Maria veut qu'on se marie, elle m'aimait quand j'étais Paris. T'as le syndrome du tum-tum, et tu fais le voyou. Nous c'est l'OM, nous c'est l'étoile sur le maillot. Je vais faire disque de rubis, comme Ray Mathieu. Je vis ma vie, j'ai pas tout dit. Y'a encore des trucs qui se passent. Je fume la frappe à Yoda. Un 3 me cameda. Tu veux la photo, tu peux pas. Pas de vie comme un hater. Je bois tout comme un guetteur. Au studio, on est guetta. Oh shit, ça pue la mort dans le secteur. J'écoute plus, c'est qu'un menteur. Dit que c'est une folle, mais il fait le bandeur. Elle a quitté comme un scooter. Ce sont pas des fouteux, des rappeurs. Mental pas dans la ha 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 ha. Tu me descends mama, t'as pas dit pas de buzz ha 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 ha. Tu veux me test ha ha. Mental pas dans la ha 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 ha. Tu me descends mama, t'as pas dit pas de buzz ha 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 ha.
En passant par Moulin.
Ouais.
Et vous êtes toujours en direct de la courte échelle 88.4. Bienvenue. Vous écoutez l'émission Contre toutes les prisons. Et nous étions à la deuxième partie, enfin, deuxième point dont on voulait parler sur la loi Rodwell. Donc on a fait le plus gros.
Non, pas encore la loi Rodwell. Ok. Rodwell,
ah ouais, non,
ah
mais
pardon, a... pardon, pardon.
Ah oui, non, vraiment, il y a.
Ah ouais. Non, mais c'était.
Il y a de quoi faire.
J'ai cru que c'était fini.
Y a de quoi faire parce que donc comme je disais tout à l'heure, c'est une loi qui fait un amalgame entre le terrorisme et les étrangers en général. Genre c'est écrit noir sur blanc dans la loi quoi. Et du coup, il y a aussi des mesures contre le terrorisme et qu'il faut lire.
Ouais, du coup sur les bails terro. Créer une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, à raison de radicalisation à caractère terroriste s'accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l'individu de cette injonction, le préfet peut saisir le juge judiciaire pour autoriser à le placer en soins psychiatriques sans consentement, examen puis soins sans consentement, dans des conditions de droit commun prévues, sans avoir à attendre un passage à l'acte. C'est Minority Report, en fait.
Quoi ?
C'est Minority Report.
Parce que Minority Report, c'est quand les gens ils sont jugés, ou plutôt jugés coupables, avant d'avoir commis un acte.
Ouais.
Bah, en effet. Bon, après, là, enfin. Donc, il y a pas mal de. Je pense déjà quand ils disent. Je sais pas si vous avez entendu, mais ils disent. Soins sans consentement. Je pense que dans le mot soins, il faut comprendre hospitalisation, contraintes violentes. Comme. Enfin, je présume. Après, là, il y a une injonction d'examen psychiatrique et en cas de refus de l'individu, il y a un placement sous contrainte sans consentement, un placement en soins psychiatriques sans consentement. Donc je sais pas s'il va y avoir, enfin alors j'ai l'impression que ça, en fait, je sais pas ce qui se passe si l'individu refuse pas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas il psychiatrise les profils terreaux de manière générale, mais qu'en plus il crée la possibilité de les enfermer, j'imagine, en HP ou dans des espaces spécifiques pour les personnes terroristes, enfin accusées de terrorisme, dans des cellules de soins psychiatriques sous contrainte, enfin sans consentement. Bon, là déjà il y avait peut-être plusieurs trucs à dire, des petites remarques. Déjà, on est clairement sur une approche qui individualise le problème. Parce que il y a des individus qui sont dangereux et qui sont le problème, et qui sont fous, quoi. Et on ne se pose pas là du tout la question de comment la société elle peut créer des violences. Et jamais on se posera la question de est-ce que la prison ça créerait pas des personnes qui ont des galères psy derrière parce que ça rend fou. Donc voilà, il y a vraiment déjà. On fait poser l'entièreté du problème sur ces personnes-là, en considérant qu'elles sont dangereuses, si tant est qu'elles le soient. Parce que comme on vient de le dire, si je reprends la formulation,
pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté, blablabla. Donc, c'est des trucs, enfin, c'est une mesure qu'on pourra appliquer à des personnes sur des simples suspicions aussi. Et ça, c'est un peu, c'est un peu flippant dans notre société validiste comme elle l'est.
Psychophobe.
Et psychophobe.
Islamophobe.
Oui, et du coup, là, tout en même temps. Parce que, genre, enfin, on est dans une société qui a souvent peur des fous, des folles, et qui peut fantasmer que les fous sont plus dangereux qu'ils ne le sont en réalité, qui les essentialise. Genre, la dangerosité dans leur nature, ils changeront jamais. Qui les met à distance en mode c'est des fous, ils sont vraiment pas des humains comme les autres. Donc, voilà, il y a tout ça qui existe en mode, dans le fantasme de notre façon de voir ce qu'on a, les personnes qu'on pourrait appeler des fous dangereux et de les fantasmer, de les stéréotyper un peu. Et que du coup, la justice, ça sera sans doute un reflet de ça. Et que là, dans cette situation-là, il y a sans doute des personnes qu'on ne va pas juste pas essayer de comprendre et considérer qu'elles sont sans doute très dangereuses et sans doute terroristes parce qu'on fait des associations d'idées et qu'on est biaisé par cette façon de voir les personnes non neurotypiques. Et du coup, on risque d'englober plus de personnes. Enfin, c'est le fait de mettre cette situation, ce cadre sur, enfin, faire rentrer ces personnes dans ces catégories sans qu'elles aient commis d'actes terroristes à proprement parler, ça fait qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui vont s'y retrouver juste parce que elles pensent différemment. Et en plus de ça, il va sans doute y avoir des traitements dégradants envers toutes ces personnes-là, quoi qu'elles aient commis, qui seront horribles et inutiles dans tous les cas. Et
vous êtes sur Radio Galère.
Je trouve ça hyper grave.
Donc voilà, il y a le fait que les personnes elles puissent être enfermées sans avoir commis d'actes. Et du coup, on est un peu sur l'entrecroisement de deux domaines de fous, de l'État il fait n'importe quoi. Genre, j'ai l'impression de la psychiatrie slash l'antitéro. On est vraiment sur, enfin genre, parce que l'impression de la psychiatrie, on peut avoir tendance à avoir peur des personnes et les enfermer pour rien, même sans qu'elles aient rien fait, parce que, enfin, genre, on va pas les laisser sortir parce qu'on en a peur et qu'on a l'enfermement facile et le soin pas très présent. Et que avec le terrorisme, pareil, on donne facilement la caractérisation terroriste, elle est assez modulable et on a souvent tendance à la fubler à plein de situations. Et tu peux même être associé à du terrorisme parce que t'as fait de l'apologie du terrorisme, alors que t'as par exemple défendu la résistance palestinienne. Donc vraiment, on est sur un genre.
Oui, rappelons qu'à Marseille, là, les gens, ils ont été arrêtés pour avoir écrit une brochure.
Oui. Il y a eu une perquise et tout.
Tout à fait.
Et que du coup, ouais, là, ça, c'est vraiment deux domaines où il y aura de la condamnation facile sans forcément avoir fait quelque chose. Comme je disais, si t'as un contact avec un terroriste, tu vas être ultra surveillé et même si t'as rien fait, la justice va se pencher sur toi. Et pareil avec les personnes
fous
et folles.
D'ailleurs, on en reparlera juste après, mais il y a effectivement l'association Samidoun qui a essayé d'être, démantelée. En tant qu'association, parce qu'ils étaient en contact avec des prisonniers, ou en tout cas qui racontaient les récits des prisonniers palestiniens.
Et sous tout le temps, enfin, quasiment systématiquement, avec des rhétoriques dites antiterroristes, quoi. Et du coup, j'allais dire, peut-être qu'on est un peu trop méfiant ou méfiante, et qu'on se méfie trop, on n'a pas assez confiance en la psychiatrie française et qu'on imagine qu'elle va être violente et que les personnes vont être maltraitées à tort et qu'en vrai ils veulent juste en prendre soin des personnes. Mais venant d'un texte qui amalgame le terrorisme des étrangers, des étrangères, les fous et folles et qui comme perspective propose plus de prison, plus d'expulsion et des soins sans consentement, on dirait plutôt que c'est des profils dont l'État veut se débarrasser plutôt que des profils qu'il veut accompagner, quoi.
Tout à fait.
L'intention, enfin le fait que ce soit dans ce texte-là, ça clarifie un peu l'intention de ce côté psychiatrisation. Voilà, ça c'est. Et donc ensuite, il y a un autre truc qui, enfin peut-être, il y a un truc sur la rétention de sûreté dont la loi peut être lue.
La rétention de sûreté.
J'étais en train de digérer la première. Là.
Oui, là.
étendre la rétention de sûreté judiciaire aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 15 ans pour des faits de terrorisme lorsqu'ils présentent ou elles présentent à l'issue de l'exécution de leur peine une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité. Non mais...
Du coup, la rétention de sûreté judiciaire, c'est quand une personne arrive à la fin de sa peine, ouais, et qu'on considère qu'elle est encore dangereuse, on peut la prolonger de 1 an, puis de 1 an, et puis à l'infini de 1 an, puisque on peut prolonger son enfermement d'un an à l'infini. Enfin, genre, et à chaque fois le renouveler tous les ans. C'est ça qu'on appelle la rétention de sûreté judiciaire. Donc t'as fait ta peine en entier, mais on te garde. C'est un truc qui existe déjà pour plusieurs crimes graves. Donc en vrai,
ça c'est en centre de rétention.
Non, ça c'est en prison.
Oui. D'accord.
Sans aménagement, en cellule.
Oui, ça. De toute façon, ces personnes qui sont arrivées au bout de leur peine de ferme sans aménagement, ouais, et qu'on continue de garder enfermées. Donc là, on sort du. Enfin, genre, c'est ce que je disais. Cette loi, elle va sur vraiment plusieurs domaines, sur le centre de rétention, sur la psychiatrie ouais, des personnes dites terroristes.
Et là, sur la prison.
Et là, sur l'enfermement des personnes dites terroristes.
Ok.
Puisque la Donc il y a le principe de rétention de sûreté qui existait déjà pour plein de crimes, pour quelques crimes très graves. Quand t'as fait plus de 15 ans de prison, quand t'es condamné à plus de 15 ans de prison pour ces crimes très graves, tu pouvais te garder à l'infini si l'État considère que tu es encore dangereux, même si t'as pas recommis d'actes. Et donc en soi, les personnes qui ont commis des actes terroristes, selon l'État, si elles ont commis ces actes-là, eh ben, elles rentrent déjà dans cette case-là. Du coup, ils pouvaient déjà les mettre en rétention de sûreté. Mais là, ils ont élargi le champ aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement de 15 ans, comme les autres, okay, pour des faits de terrorisme. Et du coup, enfin, en fait, ce qui est un peu inquiétant dans ça, c'est que le caractère terroriste, dans les faits, on voit que, en général, dans ce que la justice fait, c'est juste des actes qui sont accompagnés d'un discours explicite contre l'État ou contre la politique d'un État. Et du coup, bon, il y a des personnes qui, genre, ça peut concerner Daesh et ça peut concerner aussi d'autres profils, genre Palestine Action en Angleterre, ou alors les soulèvements qui ont démantelé l'usine Lafarge. C'est juste des personnes qui font des actes et qui ont un discours contre l'État. L'État a vite fait d'utiliser le mot terroriste, et en fait il est un peu le seul à décider de qu'est-ce qu'il va désigner comme terroriste. Ouais. Et que du coup, en vrai, je pense à court terme, il n'y a pas tout le monde qui va se retrouver en rétention de sûreté. Déjà faut prendre une peine de plus de 15 ans. Mais ça ouvre la brèche légale à ce flou-là du caractère terroriste qui peut être qui est un peu qui est un peu un outil que l'État a entre les mains et qui l'utilise quand il veut. Et que là, il va du coup pouvoir utiliser la rétention de sûreté ça ouvre la porte à utiliser la rétention de sûreté dans d'autres situations que les crimes qui étaient prévus de base pour.
Comme l'invention du mot éco-terrorisme et qui du coup fait rentrer des choses différentes.
Oui. Et après, déjà, moi je trouve que être enfermé c'est une dinguerie, mais être enfermé à la fin de sa peine alors que t'as pas recommis d'actes à l'infini potentiellement, c'est aussi une dinguerie. Ouais. Et l'élargir à énormément de cas, on gravit encore des petits échelons sur l'échelle de la dinguerie.
Donc quand même, si j'ai bien compris, c'est quand même, dès que t'as une peine de 15 ans qui a un peu à voir avec le terrorisme ou un nouveau terme terrorisme comme l'écoterrorisme, ils ont même créé des fois après la loi, tu peux continuer à faire une peine renouvelable tous les ans après tes 15 ans, donc être enfermé tant qu'ils le souhaitent.
Oui.
C'est un peu flippant.
Après, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Enfin, on n'y est pas demain. Je pense que là, les profils, les profils qui seront en rétention de sûreté vont pas changer très vite. Mais voilà, ce que je disais, c'est souvent il y a des lois qui passent sous couvert d'antiterro et qui derrière s'élargissent à un champ beaucoup plus large. Comme là, par exemple, la loi Rodwell sur la question des centres de rétention administrative qui, au début, c'était 3 mois pour tout le monde, après par contre 6 mois pour les terroristes, et maintenant hop, on a redécalé 7 mois pour les terroristes et les personnes qui ont commis des délits graves. J'ai l'impression que souvent il y a cette dynamique de élargir.
Oui, oui, comme dans partout, quoi. Comme le 41 bis, à la base, c'est que pour la mafia, et puis finalement, c'est aussi pour les anarchistes, pour les militants, enfin.
Tout à fait. Le 41 bis.
C'est en Italie, pardon. Et voilà.
C'est les QSO en Italie. Et en vrai, du coup, ouais, genre, les actes, là, dont on parle d'actes terroristes, genre, ça peut être des crimes, donc, comme ceux qui existent déjà pour la rétention de sûreté, mais ça peut aussi être des trucs moins conséquents, genre des sabotages, comme il y a eu avec Lafarge. Ou juste soutenir la lutte armée palestinienne face à un État qui est bien plus meurtrier qu'elle, ça peut être considéré comme apologie du terrorisme. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le glissement il va vite. Ou alors, ça peut être même pour avoir rien fait, mais avoir croisé le chemin de la DGSI qui s'ennuyait. Et je sais pas, si, est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'affaire du 8-12
Le 8 décembre.
Oui, voilà. Et qui était du coup une affaire dont on a déjà parlé ici, où la DGSI. N'avait aucune preuve, si ce n'est trois pétards mouillés, et a décidé que tout le monde était coupable, quoi.
Exactement. Voilà. Et eux, ils ont vraiment été jugés comme terroristes, alors qu'il n'y avait aucun fait contre eux. Donc voilà, la fublation terroriste, elle est vraiment, c'est vraiment un champ flou, et du coup, élargir la rétention de sûreté, c'est assez flippant. Déjà que le fait que ça existe, la rétention de sûreté, c'est assez flippant.
Waouh. Bienvenue dans ce monde de merde.
Et bon, après, le dernier bonus, par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste suivi socio-judiciaire à l'issue de la peine sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention. Autrement dit, si on considère qu'une personne s'est radicalisée en détention, même si elle n'a pas été condamnée pour du terreau à la base, on va quand même la surveiller de près, on élargit le champ à un peu plein d'autres personnes, blablabla, la société de surveillance, etc. Le refrain. Du coup, bon, là, c'était plus la partie sur le côté terreau de cette terreau. On dirait que je parle de jardin. Ouais. Sur
on
le côté
parle de terrorisme.
Terrorisme de cette loi. Et vraiment, il y a vraiment, comme je disais, le lien qui est fait assez systématiquement avec les personnes étrangères dans leur ensemble, comme si elles étaient toutes. Du coup, voilà, c'est vraiment une loi qui fait pas mal d'amalgame. Et oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, sur la psychiatrisation, genre, il y a vraiment un truc un peu, enfin, je trouve que c'est un peu hardcore, tu vois, sur cette approche de la santé mentale comme un problème qui n'est juste qu'un problème, et genre, ça ouais. Utilise le mot soin de manière très très hypocrite, mais genre, est-ce que suite au diagnostic qui leur aura été attribué de dangereux terroriste qui a besoin de soins, les personnes elles pourront demander à une annulation de leur mesure d'éloignement pour pouvoir continuer le parcours de soins médical qu'elles ont commencé en France, par exemple? Je pense pas. Alors, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un truc de ce que je disais tout à l'heure, toujours à charge des personnes, quoi.
Bah oui, mais en façon, tu l'as très bien dit sur le côté individuel qui est mis comme quoi c'est si le problème vient forcément de la personne. C'est vraiment une réflexion très psychanalyste bourgeoise. C'est jamais la situation qui est problématique. C'est jamais des systèmes qui agissent sur les gens, qui a des oppressions, etc. Ça n'existe pas pour la bourgeoisie. Le système de classe n'existe pas. C'est juste une sélection naturelle. Enfin, c'est un vrai problème. Et ça se retrouve dans ces logiques de loi, en fait, où c'est l'individu qui est problématique et qui n'a pas du tout un envie de suivi ou de faire changer des choses ou des systèmes.
C'est légalement très méprisant, quoi.
Est-ce que...
Ouais, on fait...
Un peu de musique.
Un peu de musique.
On s'envoie de la force.
Allez, grave.
On est ensemble, on lâche rien et grosse force. À tout de suite, on va écouter Hotman, Argent Facile.
À toutes.
À toutes.
J'ai grandi là où les rêves se noient dans le béton humide, où les sourires sont rares et les regards sont lucides. On parle en silence ici, les mots peuvent coûter cher. Un faux pas, une erreur, et c'est ton nom qu'on enterre. J'compte plus les nuits blanches à refaire le scénario. Entre la daronne qui pleure et les potes au parloir, y'a pas de hasard. Que des choix qu'on regrette trop tard. On voulait toucher le ciel, on a sali les étoiles. Toujours sur mes gardes parano dans la foule. Les vrais se font rares, les traits de pullules. J'avance avec mes démons, je leur serre la main tous les jours. Le diable m'a parlé, il m'a dit tire à l'an si t'es sourd.
dans la nuit je traîne mes peines. Personne pour m'écouter, le cœur blindé de problèmes. J'ai appris à douter, on voulait juste en sortir. Maintenant on s'égare, entre l'argent facile et les gyrophares. Dans la nuit je vois leur visage, même quand je suis seul. Les souvenirs me poursuivent, je peux pas fermer l'œil. On a grandi trop vite sans mode d'emploi. Ici même l'espoir a peur de faire un pas. Les murs ont des oreilles dont je parle à demi-mot. Les frères deviennent lourds quand y'a plus assez de morceaux. J'ai vu l'amitié mourir pour quelques billets sales. Et des promesses partir en fumée dans le canal. On se perd dans le vice, dans les billets. La rage, on voulait briller, mais on a cramé le paysage. Les anciens disent fais gaffe, mais personne n'écoute. On préfère tomber vite que marcher dans leur route. Le regard froid, je cache la douleur sous la veste. On fait l'effort, mais la nuit tout le monde encaisse. J'ai trop donné pour rien, maintenant je calcule plus. Dans ce monde de yeux, vaut mieux être celui qui ruse.
Et on arrive, vous êtes toujours en direct de Radio Galère. La courte échelle.
Ouais, voilà. On avait discuté à l'instant, là, peut-être de passer un petit peu aussi à la parole des personnes enfermées. Là, je voulais vous lire un petit entretien, en fait, qui est sur le site Samidoun, qui est facilement retrouvable du coup sur Internet et qui est un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Donc, c'est un entretien avec le prisonnier Nader Sadka à Samari. Donc c'est un samaritain, c'est-à-dire que c'est un... les samaritains, c'est une branche juive qui est très très ancienne, voilà, qui est en Palestine, donc notamment à côté de la ville de Naplouse. Il y a pas mal de villages samaritains. Voilà, on va lire un peu cet entretien où il y a la réponse à notamment deux questions.
La première question, c'est quand et comment as-tu rejoint le Front Populaire, sachant que tu appartiens à une communauté religieuse particulière ?
Alors du coup, la réponse que donne Nader Sadka à Samari, c'est tout d'abord, et après avoir remercié pour votre intérêt, je voudrais clarifier un point concernant la formulation même de la question, qui semble suggérer une sorte de paradoxe. Le fait que je sois à la fois samaritain et militant politique. Or, je ne considère pas que ces deux aspects représentent une contradiction, sauf si l'on donne du poids aux stéréotypes et aux préjugés. Considérer mon engagement politique et national comme exceptionnel du fait de mon appartenance à une certaine communauté religieuse, c'est en réalité mettre l'accent sur l'étiquette plus que sur mes convictions et le sens profond de ce qui m'anime. Au bout du compte, je suis un citoyen palestinien, imprégné de la culture de son peuple, ayant vécu une symbiose avec ses préoccupations et ses causes dans un processus naturel et spontané. On pourrait même trouver surprenant que je sois le moins rigide dans mon engagement politique et national parmi mes frères. Dans mon éducation familiale, je n'ai jamais perçu de contradiction entre mon appartenance nationale et mon appartenance religieuse. Quant à mon adhésion au Front Populaire, elle remonte à la fin des années 1960 et au début des années 1990, lors des premières années de la première Intifada, dans le cadre de l'élan populaire qui marquait cette époque. Cela fait donc longtemps, même si je ne peux pas satisfaire la curiosité de ceux qui voudraient une date plus précise. Mon engagement s'est forgé au sein d'un contexte marqué davantage par la spontanéité militante, les circonstances et le hasard que par un choix idéologique réfléchi. L'engagement personnel avait souvent à ce moment-là la forme d'une appartenance d'adolescence. Nous étions une génération portée par une révolte immense sans toujours avoir conscience de nos choix. Je n'ai donc aucune gêne à dire que mon adhésion au front, limitée à ce stade, tenait surtout au fait que je vivais dans un quartier où il était particulièrement présent et influent. Cette présence m'a attiré et m'a conduit, comme beaucoup de mes camarades, à m'impliquer dans l'Intifada, ce soulèvement spontané mais organisé. Ce facteur, malgré sa simplicité, a été le point de départ d'autres éléments qui, par la suite, au fil des événements, ont contribué à forger ma personnalité et mon engagement sur des bases plus solides et plus conscientes. En avançant dans ma vie, petit à petit, ma conscience et mon vécu se sont formés dans une direction qui aurait pu être différente, mais qui a pris ce chemin. En résumé, on peut dire que le hasard m'a placé sur la première route que j'ai empruntée et que j'ai parcouru ensuite de mon plein gré aussi loin que je le pouvais. Alors on va passer à une autre question qui lui a été posée.
Tu as ensuite été emprisonné. En tenant compte de ton rôle de leader de plusieurs structures et cadres organisationnels en prison, comment évalues-tu l'expérience de l'organisation de la branche des prisons, ainsi que la situation générale du mouvement des prisonniers et prisonnières ?
L'emprisonnement m'a façonné et endurci à tous les niveaux, notamment politique et organisationnel, car l'action militante derrière les barreaux a un caractère spécifique. Le contact quotidien et direct avec tes camarades transforme ta vie entière en activité organisationnelle, alors qu'auparavant ce n'était qu'une partie de ta vie. Cela élargit ton horizon, te pousse à la créativité, à l'improvisation, à puiser au plus profond de toi-même et à découvrir tes capacités et celles de tes camarades, ce qu'aucun autre contexte ne pourrait t'offrir. Quant à l'organisation de la branche des prisons, elle a été créée en 2008, après la décision d'unifier le travail des cadres du parti dans toutes les prisons, dans une structure unique reflétant une ligne commune. Cela a permis de dépasser le fonctionnement en cercle isolé et d'instaurer un caractère plus partisan, plus centralisé et plus fort. Cette organisation a donné aux camarades détenus une plus grande opportunité d'interagir avec le parti, d'élargir leur vision et a renforcé notre rôle à la fois au niveau national et dans le cadre de la lutte carcérale, malgré notre nombre relativement réduit. On peut dire, après 12 ans d'existence, que l'organisation de la branche des prisons a largement contribué à la formation de nombreux cadres militants expérimentés, à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan de la lutte. Elle a instauré un fonctionnement unifié et cohérent qui a renforcé l'efficacité et la vitalité de notre structure sur le plan interne, mais a aussi fortifié notre poids au sein du mouvement national des prisonniers et prisonnières. Enfin, concernant notre confrontation avec l'administration pénitentiaire, nous avons accumulé un capital pratique à tous les niveaux, sans nier que nous avons aussi connu des moments difficiles. Mais tout cela a enrichi notre expérience et nous a permis de nous améliorer. En somme, je peux dire à mon humble avis que la branche des prisons contribue l'une des expériences organisationnelles les plus importantes et les plus réussies de notre histoire militante derrière les barreaux. Quant à la seconde partie de ta question sur la réalité du mouvement des prisonniers et prisonnières dans son ensemble, je dois dire clairement que l'état actuel du mouvement carcéral palestinien n'est pas à la hauteur des espoirs et des attentes de notre peuple. La faiblesse, la fragmentation et la dispersion qui le caractérisent ces dernières années l'empêchent de remplir pleinement sa mission fondamentale, développer et approfondir la conscience nationale des militants et militantes, les sortir de la spontanéité pour élever leur niveau de conscience, les préparer culturellement, politiquement et organisationnellement à poursuivre leur parcours militant à l'extérieur comme un ou une combattante consciente et politisée, capable de mettre à profit ce qu'il ou elle a appris derrière les murs. C'est cette mission qu'a toujours assumé le mouvement des prisonniers au fil des décennies de notre révolution palestinienne, formant de nombreux cadres et des dirigeants qui ont ensuite pris la tête de la lutte dans les territoires occupés. Inutile d'entrer dans les détails, tant les expériences sont nombreuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que la prison cesse de jouer ce rôle, elles reviendront à la fonction initiale, vider les prisonniers et prisonnières de leur contenu militant, briser les consciences nationales et leur laisser des séquelles psychologiques et physiques qui les empêcheront de recommencer en faisant de l'incarcération un traumatisme dissuasif. Or, aujourd'hui, nous sommes plus proches de cette deuxième situation que de la première. Je ne généralise pas et j'essaie de garder une certaine objectivité dans mon jugement sur la réalité actuelle du mouvement carcéral. Malgré tout, il existe toujours dans les prisons des militants et des militantes qui assument leurs responsabilités vis-à-vis de leurs camarades détenus, de toutes les tendances politiques, continuant le mouvement des prisonniers et des prisonnières. Les prisons continuent d'ailleurs de former des cadres et des dirigeants. L'organisation de la branche des prisons en est un exemple concret. Mais comme je l'ai dit, en comparaison avec le passé et avec l'ampleur des tâches qu'il faudrait accomplir, la situation actuelle est préoccupante et annonce le pire. Cela s'explique. Le mouvement des prisonniers est une structure en interaction avec l'extérieur. Ce qui se passe dehors a des répercussions directes, positives ou négatives, sur son fonctionnement. Lorsqu'on observe ces plus belles années, on voit qu'ils interagissaient avec la rue palestinienne, active et dynamique, portée par un haut niveau de conscience politique et organisationnelle. Cela avait enrichi pendant ses actes et permis de capitaliser sur ses fruits. Tandis qu'aujourd'hui, nous récoltons les effets les plus fins d'une phase nouvelle, commencée avec les accords d'Oslo, qui a affaibli systématiquement ce tissu, marginalise la conscience politique et tente de détruire les structures organisationnelles qui, auparavant, assumaient la mission de formation nationale et politique. Tout cela a conduit à l'arrêt quasiment total d'une partie du processus de vase communicant entre l'intérieur et l'extérieur. Le mouvement carcéral se retrouve seul à devoir fournir un effort disproportionné tout en voyant ses capacités s'user. À cela s'ajoute la frustration, l'individualisme et le sentiment d'inutilité qui ont accompagné l'effondrement des valeurs essentielles remplacées par des comportements claniques, régionalistes, tribaux. Des valeurs extérieures encouragées parfois directement, parfois ouvertement par l'ennemi qui prennent le dessus. Et l'administration pénitentiaire tente aujourd'hui d'imposer comme modèle ce qu'elle n'avait jamais réussi à atteindre dans le passé. Voilà, c'était pour donner un exemple en fait aussi de mouvement des prisonniers qui essaie de construire des structures ou de former des gens dans les prisons, parce que c'est de ça que l'on parle, et que y a un vrai lien avec l'intérieur et l'extérieur. Vous pouvez en découvrir plus du coup effectivement sur Sami Doun et en lisant l'entretien avec ce prisonnier Nader Sadka Asmari. C'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'il parle aussi beaucoup du fait de mettre la pression en fait à l'intérieur de la prison en tant que prisonnier palestinien, et que le lien avec la rue, c'était que les gens en fait se mobilisaient, faisaient aussi des manifestations, sortaient en soutien avec les grèves de la faim que faisaient les prisonniers, et que ça avait un véritable impact, et que plutôt que, à un moment il dit par exemple qu'une grève de la faim dans les prisons pouvait faire que des roquettes arrivaient à Tel Aviv. Et ben oui, finalement les dirigeants israéliens préféraient changer les conditions des ou accepter les revendications des prisonniers plutôt que de créer un incident diplomatique majeur. Et sur ce, on vous attend le 28 à 14h devant les Baumettes pour tenter de faire un peu la même chose, de porter du soutien aux prisonniers des Baumettes.
Grave. Et le dimanche soir même, à l'antenne, on sera à la 2h pour l'émission de La Courte Échelle. Donc, si vous pouvez venir, venez écouter collectivement le podcast qu'on passera. Ce sera un témoignage de... Comment elle s'appelle encore ? Oui, carrément. Et...
On ne t'entend pas. Tu as dit quelque chose ? Il a oublié d'allumer son micro.
C'est bon. Eh bien, tant pis, on ne saura pas. Je crois qu'elle s'appelle Anne-Lise.
Oui, grave. Puis en vrai. Et sinon, il y aura de la musique et il y aura un bout de l'émission, la deuxième heure, de 20h à 21h, qui sera un format parloir libre. Ou du coup, si jamais vous voulez appeler à l'antenne à ce moment-là, ou voilà, ce sera dédié à ça.
Yes.
N'hésitez pas à appeler en tout cas, ouais. Pour des dédicaces, pour tout.
Il y aura
pour
le numéro
réfléchir.
De parloir libre aussi.
Trop bien.
Que je cherche tout de suite avant la fin de l'émission.
Et du coup, merci beaucoup pour la lecture du témoignage. C'était, bon, on s'est dit que ça te faisait plaisir d'aérer un peu tout le blabla avec un petit peu des discours directs de prisonniers tout de même. Il serait temps de ne pas oublier ce à quoi sert cette radio. Mais peut-être en 10 minutes pour conclure sur
la loi
Rodwell. Ouais. Donc là, on a un peu abordé les deux gros pôles essentiels à des cris.
Les enfants crient dans le studio.
on a un peu abordé les deux pôles essentiels sur l'enfermement des étrangers et sur les trucs plus spécifiques au profil terroriste et l'enfermement des étrangers, tous, pas que ceux condamnés pour terrorisme. Et du coup, il y a un dernier truc un peu qui va changer, et bon, je vais essayer de le tracer un peu plus vite. On va pas lire le texte brut pour pas perdre de temps. Mais mon troisième sujet, c'est sur les changements de nom.
Bon, changement de nom.
C'est moins lié directement avec l'enfermement, mais c'est quand même intéressant de le savoir, parce que c'est aussi dans cette loi que c'est aussi grave. Donc, en gros, maintenant, pour changer son nom, il faudra fournir un casier et, si on est étranger, faire d'abord le changement dans le pays dont on est originaire. Et si c'est un pays qui refuse les changements de nom, il faudra réussir à faire reconnaître qu'il en résulte d'une atteinte disproportionnée aux droits et au respect de la vie privée. Donc, en gros, convaincre l'État français de le faire quand même si l'État dont on est originaire ne veut pas le faire. Et ça, c'est une mesure qui glissait là, qui a un peu, enfin bon, qui est un peu une mesure sécuritaire pour empêcher les personnes qui seraient terroristes ou qui auraient été condamnées par le passé ou qui viendraient en France de changer d'identité pour passer inaperçu et commettre d'autres actes. J'ai l'impression que c'est ça le propos. Mais en vrai, ça, c'est une loi qui va s'appliquer à plein de personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui changent de nom, plein. Notamment, en vrai, les personnes trans. Et du coup, bah, ça va être une loi violente envers les personnes trans qui sont étrangères ou qui ont eu des antécédents judiciaires, qui auront plus de galères administratives, qui devront fournir plus de documents, et dont la demande sera évaluée avec l'œil sournois des administrations vont vérifier que c'est pas les terroristes et qui, comme on l'a vu, elles cherchent les terroristes partout. C'est un peu, bon, ça va compliquer leur demande et c'est hyper chiant. Donc tout le dernier élément de cette loi qui rend fou. Et en vrai, c'est bon, à chaque fois qu'on en parle, c'est le cas, mais là, j'ai l'impression que c'est encore un bon exemple de mesure anti-terro qui a des conséquences collatérales sur d'autres personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec le terrorisme et dont les droits vont être atteints. Et en vrai, bon, j'ai l'impression que tout le temps, c'est ça, des restrictions de liberté avec ce prétexte antiterroriste. Et que France, bon, je sais pas, mais en vrai, c'est mon objectif en tant que terroriste, c'est de déstabiliser le pays des droits de l'homme et par la peur et de diminuer les libertés au quotidien de ses habitants. Bah, je serais content que la loi française aille autant dans mon sens.
En tout cas, c'est une sacrée loi qui fait un peu tache d'huile dans tout le. Enfin, voilà, l'image de la tache d'huile, j'aime bien parce que ça va un peu dans différents sens. C'est un peu des lois qui pompent en ce moment, enfin qui sortent en ce moment, qui est une loi générale basée sur des faits divers où ils vont essayer d'atteindre, d'actionner sur différents leviers. Donc là, le centre de rétention, la prison, les changements de nom.
Oui, c'est une loi qui répond directement aux polémiques créées par les médias d'extrême droite sur les faits divers qui parmi tous les autres faits divers ont été commis par des personnes sous mesure d'éloignement, qui survisibilisent ça et du coup ça crée l'impression qu'il faut une réponse et du coup bah il y a des politiciens qui capitalisent sur ça et qui veulent se faire bien voir et qui vont créer des lois qui vont dans ce sens-là pour créer des nouveaux outils de répression et qui du coup vont faire que les personnes accessoirement qui vont faire que les personnes qui se retrouveront enfermées auront moins de droits, vont prendre plus cher. Et voilà, enfin ça c'est une conséquence assez directe des dynamiques de fascisation. Et vraiment, faut se dire que cette loi, elle a été évidemment votée par l'extrême droite aussi, mais elle est proposée par le centre. C'est vraiment une loi de Macron, donc c'est une loi d'extrême droite, mais qui vient de l'extrême droite des partis centristes.
Ouais, mais vas-y.
Et en vrai, elle coche un peu, enfin. Elle utilise la psychiatrie comme un outil de répression, elle diabolise tous les étrangers, elle a la peur d'un ennemi intérieur qui serait menace, elle amalgame plein de situations différentes. Genre, en vrai, j'ai l'impression qu'ils ont pris la recette de comment faire une loi fasciste et hop, ils ont coché toutes les cases les unes après les autres. Et voilà, bon.
Oui, mais aussi sans forcément passer par le truc, c'est une loi par rapport à l'immigration, tu vois, c'est un peu caché, c'est vraiment passé par la prison, le centre de rétention pour parler de la psychanalyse et des changements de nom, enfin, c'est aussi un peu détourner le. Passer par, je sais pas, une autre porte pour aussi empêcher des mobilisations, parce que ça concerne différentes personnes, non, parce que c'est vraiment une loi. Contre les personnes soit d'origine étrangère soit étrangère et qui n'ont pas les bons papiers mais du coup c'est difficilement mobilisable parce qu'elle porte aussi un nom particulier et qu'elle rentre par la porte de la prison du centre de rétention.
Oui, ça utilise le prétexte d'une situation atroce qui est arrivée, d'un fait divers et de la peur générale du terrorisme comme tu dis pour avoir un impact sur la vie de tous les étrangers en France qui n'ont pas les bons papiers et qui pourraient se retrouver en CRA. Et oui, et donc voilà, bon, c'est un peu peut-être pour conclure, on peut retenir le truc qu'on dit tout le temps, mais le CRA, c'est vraiment à la fois une frontière parce que n'importe qui peut s'y retrouver, mais vraiment, c'est aussi complètement utilisé comme un outil carcéral, comme un complément de peine. Genre, ça répond aussi à la volonté des personnes que les étrangers soient traités plus sévèrement que le reste de la population. Et là, ils peuvent prendre 7 mois ferme de plus, voire beaucoup plus s'ils sont enfermés plusieurs fois. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment hardcore. Et bon, voilà, genre, en France, on le sait, on n'est pas égaux en droit, genre c'est faux. Ouais. Mais là, c'est plus que faux, c'est écrit dans la loi. Si tu es, si tu n'as pas les bons papiers pour le même délit que quelqu'un d'autre, tu peux prendre 7 mois ferme de plus, voire 500, voire 18 mois ferme de plus. Enfin, genre c'est une dinguerie. Enfin, genre c'est après.
Bon. Ah ouais, non, mais c'est un très bon rappel, je pense, de effectivement dire que la loi n'est pas la même pour tous et que quand t'es une personne qui a pas les bons papiers voilà, enfin, t'as pas du tout les mêmes, enfin, la loi s'applique pas de la même manière. Notamment pendant le confinement, on se rappelle qu'il y avait, si tu refusais un test Covid, tu pouvais avoir une peine d'emprisonnement.
Oui,
c'est pas rien.
C'était considéré comme une obstruction à une mesure d'éloignement. Enfin, oui,
la conclusion est qu'en fait, t'allais quand même en prison.
Les tests Covid, c'était pour les personnes qui vous refusaient un test pour pas être expulsé parce qu'il fallait des tests Covid pour monter dans l'avion. Et du coup, le simple fait de refuser un acte médical, c'était une obstruction à une mesure d'éloignement. C'est comme si tu t'es débattu ou que tu avais essayé de t'enfuir. Et du coup, tu prenais de la prison pour ça. Qui prend de la prison pour ça? Personne, à part, dans ce cas-là, les sans-papiers. Bon.
C'est ouf, quand même.
Oui. Bon. J'ai un peu tracé sur la fin, mais on a quand même pas mal dépassé ce soir.
Ouais, ouais. Mais elle a fait une belle conclusion en rappelant quand même qu'effectivement la loi n'est pas la même
pour tout le monde
en France.
Et encore gros anniversaire
à Kémy.
Joyeux anniversaire à Kémy.
Et puis grosse force à toutes les personnes qui sont enfermées. On pense à vous.
Ouais. Et nous, on va vous mettre de la bonne musique. Parce que là, c'est la fête de la musique, mais c'est un peu de la merde dehors, j'ai l'impression. Alors que là, on va vous mettre un truc de ouf.
Oui, non. Grave, pour ce que ça vaut, avant que Galère reprenne l'antenne quand même, avec sûrement Perche 3000, ou bien en tout cas de la musique qui va continuer toute la night, qui est toujours quand même de plutôt très bonne qualité. Et nous, on va se quitter.
Yes.
Avec. Oui, grave. Oui. On va se quitter avec. Enfin, je parle en anglais. 54-46, that's my number, des Martials. My Sals. Et voilà. Gros big up.
À la semaine prochaine.
Ouais, big up. Force et courage et résistance. On sait que vous résistez à l'intérieur. Et donc, bonne écoute, bonne musique. Et on garde le mood.
Grave.
C'est encore nous, c'est la courte échelle, désolé pour l'interruption du reggae. On voulait juste rappeler le numéro de Parloir Libre pour envoyer des SMS, du signal, du WhatsApp, ce qui arrange pour du coup passer un message à l'antenne sur le numéro de Parloir Libre qui est le 07 46 64 30 56. Et voilà, après il y aura l'antenne évidemment en direct, mais si jamais vous voulez préparer texto, dédicace musicale, podcast, voilà, vocaux, et ben ce sera passé ce soir-là. Ouais. Gros big up le 28 pour dimanche prochain. Ciao.